Tempo Classique sur RCN, Dominique Bréda.
Bonsoir à tous, je vous propose ce soir d'aller explorer un univers qui combine musique et santé. Je veux parler de la musicothérapie. Et pour nous guider, j'ai invité bien évidemment une musicothérapeute, Christine Doridan. Bonsoir Christine.
Bonsoir Dominique, merci pour l'invitation.
Mais avec plaisir. Alors avant de parler un peu plus en détail de votre métier, dites-nous comment vous en êtes venue à vous orienter vers la musicothérapie.
Au départ de ma vie, je voulais être médecin. Or, les études n'ont pas été couronnées de succès. Je me suis retrouvée rapidement en faculté de musicologie, car j'avais la chance d'avoir l'oreille absolue. C'était déjà une toute petite chance.
Ah bah c'est plus, oui, une grande chance.
Puis, j'ai eu une licence de musicologie. J'étais partie pour être professeur. Mais hélas, et Dieu merci, j'ai raté le CAPES, ce qui m'a fait rencontrer une musicothérapeute qui s'intéressait beaucoup aux personnes âgées, Yolande Moine-Larpin, avec qui j'ai commencé ma formation. Puis j'ai intégré le Centre international de musicothérapie, qui était pour moi un bon retour vers ma volonté, mon envie de soigner.
Alors, voilà. Il est où ce centre ?
À Paris. Il était jadis dans le 19e, un quartier un peu chaud de Paris. Après, il s'est retrouvé à... Mince, j'ai un trou.
Oh, ça arrive, hein, c'est pas grave. Bon, c'est à Paris, quoi.
À Paris.
Et ça a duré combien de temps ?
3 ans. Donc, ma spécialité, c'était la gériatrie, les personnes âgées. Donc, 2 ans, le cursus à peu près normal. Et j'ai eu la chance de commencer mes études avec Jacques Jost.
Oui, dont on reparlera tout à l'heure.
Oui, j'ai failli jouer du violon avec Yehudi Menouin, parce que le centre de musicothérapie... travailler avec la caution morale de Yehudi Menouin.
Donc, à maintenant, vous travaillez à 60% au CPN, donc Centre psychothérapique de Nancy.
Oui.
Et 40% au CNFPT, donc Centre national de formation...
Professions territoriales.
Où vous faites de la formation, donc.
Oui.
Voilà. Bah, écoutez, on va écouter un petit peu de musique. Thank you. C'était Oblivion d'Astor Piazzolla avec au trombone Mohamed Gamal, à la contrebasse Samar Hafez et au piano Amin Elou. Alors Christine, on a retrouvé où était ce centre de musicothérapie.
Oui, mais ça y est, je ne sais plus.
À Noisy-le-Grand.
À Noisy-le-Grand, voilà. Et c'est là que j'ai enseigné d'ailleurs quelques années.
Alors musicothérapie, ça se définit comment ?
Alors, il y a beaucoup de définitions, quasiment une définition pour chaque musicothérapeute. Moi, j'ai aussi la mienne. C'est que on est un thérapeute, est un thérapeute qui collaboratrice de choc, qui est la musique. Donc, toutes les thérapies vont être facilitées par la musique qui va venir créer une dynamique différente.
Et elle ne peut pas vous contrarier, la musique.
Non,
vous contredire,
en plus,
en tout cas.
Elle n'est pas soumise aux 35 heures, elle est toujours en pleine forme. C'est facile de travailler avec la musique.
D'accord. Alors, quand j'ai regardé un petit peu la musicothérapie, j'ai vu communication.
Oui.
J'ai vu faire du bien aux autres.
Et c'est bien que vous ayez vu la communication, parce que justement, je pense qu'une des indications principales de la musicothérapie, c'est l'autisme. Parce qu'on imagine facilement que quelqu'un qui est en difficulté de communication traditionnelle peut se servir de la musique pour communiquer sur ses émotions, sur ses ressentis.
Mmh. Et puis alors, dans les autres mots que j'ai croisés, il y a médiation sonore, lien thérapeutique, objet intermédiaire sonore, objet psychomusical, restaurer le lien, lâcher prise avec la musique,
oui.
La vibration qui fait le lien avec le patient.
Voilà, et ça va donner tous les types de musicothérapie, pour tous les mots qui sont vraiment les mots principaux et du soin.
Très bien. Quelques mots sur l'histoire de la musicothérapie, peut-être ?
Oui, il semble que depuis la nuit des temps, la musicothérapie existe, ne serait-ce que dans la Bible. Les Hébreux, par exemple, nous parlent de David qui jouait de la harpe pour soulager Saül qui souffrait de maladies nerveuses, par exemple. Marin Marais qui écrivait pour des musiques pour apaiser un ami qui souffrait de goutte.
Ouais.
Et puis, plus récemment, Rolando Benenzon qui a posé les bases de la musicothérapie en Argentine.
Bah, c'était le pionnier mondial, lui.
Voilà, il est né en 1939, donc je pense qu'il est encore en vie. Et il s'est associé avec Jacques Jost, qui lui est le fondateur en France de la musicothérapie. Et j'ai eu la chance de travailler un tout petit peu avec lui.
Et Omar Benenzon, vous avez travaillé avec lui ?
Non, Benenzon, non. Non.
Benenzon, non.
Non, Jacques Jost, oui.
D'accord. Bien. Alors, qu'est-ce que c'est que le contenu d'une formation en musicothérapie ?
Alors, c'est déjà avoir profondément réfléchi à son lien, son propre lien avec la musique. Il faudrait pour moi être musicien, mais ces derniers temps, je vois beaucoup de musicothérapeutes qui ne sont pas des musiciens. Je trouve ça vraiment dommage.
Mais alors, ils font quoi ? Comment ils font ?
Je ne sais pas. Il y a YouTube. Voilà, ah oui. Ils font... je ne sais pas... Pour moi, c'est important d'être vraiment en lien fondamental avec l'outil sonore.
D'accord. Alors, il y a différentes formes de musicothérapie ?
Oui, il y a trois sortes de musicothérapie. La musicothérapie réceptive, qui jadis s'appelait passive. Et je déteste ce mot passif. Non, le patient n'est pas passif. Il reçoit la musique avec toute sa force. Donc là, il s'agit d'écouter la musique. Et c'est pour ça que je vous remercie, Dominique, de m'avoir laissé choisir les œuvres. Parce que c'est important de choisir des œuvres de qualité et aussi leur interprétation doit être choisie soigneusement. Donc le patient reçoit et je l'aide avec quelques médiateurs, par exemple l'écriture, le dessin, à exprimer les émotions qui le traversent à l'écoute de ces musiques. La deuxième sorte de musicothérapie, c'est la musicothérapie active. Là, il s'agit de jouer. Donc, j'ai la chance d'avoir au centre psychothérapique de Nancy un instrumentarium très, très riche avec beaucoup de possibilités sonores. Là, il s'agit soit de jouer, soit de chanter. Oui. Et enfin, le troisième domaine, c'est la relaxation psychomusicale que j'ai beaucoup utilisée parce que j'ai travaillé 10 ans à l'ICL, Institut du cancer lorrain, qui s'appelait à cette époque-là le centre Alexis Vautrin.
D'accord.
Où vraiment l'écoute de la musique, un montage sonore avec beaucoup de musique de relaxation au milieu, avec les ondes, les fameuses ondes alpha, etc. donnait carrément de gros bénéfices au niveau de la douleur. Le patient ressentait moins la douleur. Nous avons pu faire des études très sérieuses sur le sujet où la baisse de ressenti douloureux était vraiment impressionnante.
Oui, vous ne soignez pas les cancers, mais vous aidez
non,
à...
Non, la douleur liée au cancer.
Accompagner, voilà.
Voilà. On accompagnait, on soulageait. C'est, la moyenne était, le patient était douloureux à 6 ou 7, la moyenne arrivait à 3 ou 4, ce qui est quand même beaucoup plus intéressant, de la morphine. Hein. Mm-hmm. Voilà, c'était vraiment impressionnant, chez certains patients seulement.
Oui, c'est pas efficace
non,
à 100%.
Non. Il faut qu'il y ait une certaine sensibilité. J'ai le souvenir d'un patient qui avait un cancer des os, jeune homme, qui était par ailleurs clarinettiste et qui m'attendait. L'équipe me disait toujours, il t'attend avec impatience.
Ah oui.
Et il me disait, enfin, quelques minutes de gagner avec moins de douleur.
Ouais.
On apprend à être humble.
Ben j'imagine, oui. J'imagine. Alors, la musicothérapie concerne tous les âges de la vie ?
Oui, bien sûr. Comme je vous disais, l'autisme. Pour les enfants en général, les enfants qui sont en grande souffrance psychique, je les rencontre souvent, pour les aider à se poser, à communiquer différemment, à utiliser la musique aussi pour se défouler. Hein, les instruments ont beaucoup de succès auprès des petits. Après, pour les adultes, autour d'une dépression ou de la maladie mentale plus globalement, hein, toutes les pathologies qui arrivent maintenant. Et aussi, par exemple, autour de SSPT, syndrome de stress post-traumatique. Hein,
oui.
On peut se servir de la musique pour parler d'une difficulté qui a émergé. Malheureusement, par exemple, l'Aigle Noir de Barbara a beaucoup de succès chez certaines jeunes femmes, bien sûr, parce qu'il vient résonner dans leur propre souffrance. Et après, pour les personnes âgées ou les personnes qui souffrent de maladies neurodégénératives, c'est très intéressant d'utiliser la musique parce qu'il y a des endroits du cerveau qui sont moins abîmés par la maladie. Et, par exemple, la mélodie, souvent, est portée par une autre zone et elle se trouve moins abîmée, de même la mémoire ancienne. Donc, on retravaille aussi sur des textes très anciens, des chansons anciennes. J'ai souvenir d'une dame aphasique qui pouvait chanter la Java bleue.
Oui.
Ça paraissait incroyable. L'équipe venait l'écouter dans sa chambre parce que c'était vraiment impressionnant. C'est la mélodie qui vient porter le langage. Il y a eu quelques recherches là-dessus qui sont vraiment passionnantes.
Et ça marche mieux sur les hommes, sur les femmes, sur les enfants ?
Ah, c'est pareil.
C'est pareil ?
Dominique ?
Non, mais je sais pas. Je pose des questions.
Ça ira très bien. Les hommes, les femmes, oui, je pense que c'est équilibré.
Oui, d'accord. OK. Eh bien, pour la musique, il faut un dialogue, mais avant, il y a du silence. On écoute Sofiane Pamart. Thank you. C'était Silencio de Sofiane Pamar.
Tempo classique sur RCN, Dominique Breda.
Je suis toujours avec mon invitée Christine Doridan, musicothérapeute. Alors Christine, comment se déroule une séance de musicothérapie? Alors vous allez me dire, ça dépend de la forme de musicothérapie qu'on pratique.
Eh bien déjà Dominique, c'est une indication médicale. C'est une demande du médecin ou plus globalement de l'équipe pluridisciplinaire. Parfois les médecins connaissent bien mon mode de fonctionnement, donc peuvent me dire, Christine, je préférerais qu'il aille en groupe, en individuel, je préférerais plutôt de la musicothérapie réceptive ou de l'actif. Donc je choisis moi, je rencontre le patient, je lui présente et il me dit, le patient me fait savoir s'il serait plus à l'aise dans un groupe ou en individuel. Et le travail commence. Ça se réévalue au fil du temps, au fil de l'hospitalisation. Peut-être que le patient peut aller mieux. Par contre, les enfants, eux, c'est souvent sur toute l'année scolaire. À l'hôpital de jour de pédopsychiatrie dans lequel j'interviens, c'est des prises en charge qui durent sur toute l'année, en groupe.
Et comment vous faites le choix des musiques que vous utilisez?
Alors, voyez, mes goûts ont évolué depuis bac. Hein. Sofiane Pamar, par exemple, ce sont des patients qui m'ont fait écouter ce pianiste. J'essaye d'être le plus proche des goûts du patient. En cela, j'ai vraiment évolué par rapport à ce que Jost nous avait appris. Il nous disait qu'il fallait passer au patient un test de réceptivité sonore. Actuellement, on n'a pas besoin d'avoir deux sacs pleins de CD. On a tout sur YouTube, c'est très facile. Donc, je pars des goûts du patient pour après peut-être lui proposer plus d'émotions. Par exemple, j'ai eu beaucoup de succès récemment avec Oblivion qu'on écoute et en début d'émission. J'ai une patiente qui m'a dit « Ah, oh, ça tabasse votre morceau
!» Ça tabasse.
Voilà. Je crois qu'on comprend bien ce que ça vient faire. Moi, plus il y a d'émotions, eh bien, plus je fonctionne. Plus le patient va dire quelque chose de ce qui le bouleverse et on va travailler. Ensuite, je vais en parler avec les collègues, avec tous les collègues, alors les médecins, les internes, les ergothérapeutes, la personne qui s'occupe du sport. Voilà, c'est intéressant de voir ce qui va émerger au niveau émotionnel.
Et alors, dans les musiques que vous choisissez, il y a des instruments privilégiés? Ou alors c'est vraiment uniquement la musique qui fait son travail?
Ah oui, moi j'ai mes petites valeurs sûres aussi. Hein. J'ai beaucoup de tendresse pour Bach. Hein. J'ai un ami qui disait « Bach, c'est la joie, la foi, la lumière ». J'ai aussi, j'aime beaucoup tous les concertos, les mouvements lents des concertos. J'ai beaucoup de tendresse aussi pour la clarinette, qui est proche de la voix de l'homme. Et étant jadis, lorsque j'étais petite, j'étais violoniste, donc je suis très très sensible au violon. Mais si un patient vient me dire qu'il aime beaucoup le piano, eh ben, on fera beaucoup de piano ou beaucoup de guitare. J'essaye d'être le plus possible, et on le peut actuellement au niveau technique, j'essaye d'être le plus possible proche du patient, de son histoire. Parce que si on fait entendre la musique classique à quelqu'un qui n'en a pas du tout l'habitude, qui n'en a pas la culture, les images qui lui viendront, c'est un bal chez Louis XIV, et c'est à peu près tout du XVe siècle au XIXe siècle. Donc c'est absurde.
Et alors dans les trucs un peu techniques, il y a des histoires avec les tonalités privilégiées, majeures, mineures, des choses comme
j'avais un mari qui étudiait les Requiem, on s'est rendu compte qu'il y a plein de Requiem en ré mineur. Voilà. Ouais. Les tonalités mineures sont plus tristes, les majeures sont plus flamboyantes. Beaucoup de percussions, bon, c'est plus tonique. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, les poèmes symphoniques. C'est très, très riche, les poèmes symphoniques. Borodine, Moussorgsky, c'est très intéressant.
Ouais. Des enchaînements harmoniques, des choses rythmées, binaires, ternaires.
Oui, hélas, on est beaucoup dans le ternaire dans notre civilisation, hein, donc j'aime bien rajouter quand même... on est beaucoup dans le binaire, pardon,
oui.
On est dans le quatre temps. Donc j'aime bien ajouter du ternaire, oui, des choses qui peuvent se danser. J'aime beaucoup aussi Vivaldi, parce que je crois que c'était un homme très très rigolo. les patients me disent beaucoup, c'est la joie, Vivaldi, c'est la joie, la bonne humeur.
Oui. Et du côté de la musique vocale?
Oui, alors il ne faut pas qu'il y ait trop de paroles, hein, parce que les paroles vont en dire plein de choses, donc c'est pas bien. Donc oui, la musique vocale, ça peut être bien Bach, l'opéra, les ouvertures d'opéra. Alors là, il n'y a plus de... Oui, c'est plus vocal. Non, la musique vocale, je m'en méfie un petit peu quand
même. D'accord, oui, je comprends. Donc c'est des séances qui sont hebdomadaires, des choses comme
Hebdomadaires. Régulièrement, dans chaque service, j'ai des patients qui cultivent une vraie passion pour la musique. Et donc, j'ai cette chance-là au centre psychothérapie de les voir deux fois par semaine en individuel. Donc, on va creuser ensemble cette passion pour la musique ou comment ils vont pouvoir l'utiliser pour aller mieux. Je me dis, en fait, un musicothérapeute, c'est quelqu'un qui va aider son patient à être son propre musicothérapeute.
D'accord. Vous donnez du travail à vos patients entre deux séances ?
Ah oui, parfois il y en a qui rêvent de se mettre au piano. Alors ouais. Je leur prête une méthode, je leur montre les petits trucs. Et puis parfois je les revois 3 ans après place Stanislas. Ils me disent « Oh Christine, grâce à vous, je me suis mise au piano ». Alors ça c'est super.
Vous leur demandez d'écouter des choses en
oui,
plus ?
Oui, alors jadis ils me disaient « Oh ben ce week-end j'ai sorti tous mes CD ». Et je trouvais que c'était une bonne chose. Oui, mais maintenant, c'est tellement simple d'écouter de la musique que je n'ai pas besoin de leur donner des pistes. Ils les ont eux-mêmes. Souvent, ils me disent, ils sortent le téléphone de la poche pour me dire « Ah, ça, j'aime ça
ouais. ».
Tout est sur leur téléphone, en fait. Ils écoutent beaucoup de musique, les patients, actuellement. Pas forcément la meilleure, mais
oui,
c'est
bah
peut-être
oui,
mon
oui.
rôle de leur proposer d'autres choses.
Et les musiques du monde ont un impact aussi ?
Oui, beaucoup. J'aime beaucoup les musiques du monde, les musiques qui font voyager. Je leur dis, voilà, on a voyagé pour pas grand chose. C'était pas trop cher notre billet d'avion pour la Chine. J'aime beaucoup l'Amérique latine. Ouais. J'aime beaucoup la Misa Criolla. Voilà, c'est beaucoup Théodorakis aussi.
Et alors avec un patient, vous restez dans le même genre de musique ou vous essayez d'éclater au maximum ?
Non, j'essaye d'éclater au maximum.
Ouais.
Et souvent, je pars de sa musique à lui pour que ce soit bien clair que je ne la rejette pas du tout. Mais
ouais.
moi, j'essaye d'aller vers l'apaisement, vers l'émotion, vers les choses bien structurées qui vont le structurer. Moi, j'avais un patient qui me disait, il vient que jouer du piano. J'ai la chance d'avoir un piano dans ma salle. Et il dit, jouer du piano m'aide à lutter contre ma schizophrénie. Et on sent bien qu'il cherche la structure dans sa façon de jouer.
Ouais.
Au départ, c'est n'importe quoi au début de la séance. Il n'y a pas de structure. Et petit à petit, il s'organise. C'est beau à entendre.
Et alors, quand vous écoutez de la musique, vous savez si ça va pouvoir vous être utile dans votre
job ? Ah oui. Ben d'ailleurs, Oblivion, qu'on a mis au début,
ouais.
C'est un morceau que j'ai entendu. C'est un film magnifique qui s'appelle Le phare aux orques. Je me suis dit, il faut à tout prix que je connaisse ce morceau-là. J'ai beaucoup cherché. Et c'est d'ailleurs dans ce film-là, il y a une dame qui vient avec son enfant autiste parce qu'elle a entendu dire que les orques faisaient du bien aux enfants autistes. Donc on se retrouve un petit peu, on en revient sur nos pieds. Mmh. Oui, régulièrement, il faut à tout prix que je me renouvelle. Je pense que la musicothérapeute que j'étais il y a 30 ans n'est pas la même aujourd'hui.
D'accord.
On n'a pas les mêmes outils.
Eh ben écoutez, on va écouter un petit outil avec une passacaille valse de Seb Véry.
Thank you.
C'était Passacaglia Valse de Seb Véry. Alors Christine Doridan, expliquez-nous comment vos patients sont installés dans votre bureau.
Oh, c'est pas un bureau, c'est une jolie salle avec des jolis fauteuils, avec beaucoup de confort. Ils sont installés comme ils veulent. Je peux éventuellement leur mettre une petite couverture s'ils ont froid, si on est plus vers la relaxation psychomusicale. Oui, le but, c'est qu'ils soient en confiance et cette jolie salle donne sur le dehors. Voilà, j'ai une chance folle, vraiment.
Bien. Et la durée d'une séance
c'est... Une petite heure. Petite heure, ça peut se raccourcir en fonction d'état du patient, s'il ne va pas bien. Mais en général, en fonction sur la barre d'une heure. En groupe, c'est une heure, au moins.
Et alors, les séances, c'est un dialogue entre votre patient et vous ?
Oui, oui. Si c'est en individuel, bien sûr. Oui. Si c'est en groupe, eh ben, on peut apporter... Bon, il peut y avoir les instruments de musique aussi qui vont venir nous donner un coup de main pour la musicothérapie active. Ou les chansons, on peut décider de chanter. Si c'est en groupe, pour l'écoute musicale, je peux proposer par exemple de dessiner, d'écrire. Quand parfois l'expression des émotions est trop difficile, on peut se servir des couleurs pour exprimer ce qui vient nous traverser. Ou l'autre fois, j'aurais demandé d'écrire une histoire. Hein, en écoutant un grand concerto, l'histoire, elle va se commencer par « Il était une fois ». L'autre contrainte, elle doit se finir par « Ils vécurent heureux ». Et entre-temps, c'est le concerto de Beethoven qui va venir nous donner plein d'idées. Et chaque fois, c'est amusant parce que les patients nous racontent leur propre histoire.
Eh bien, écoutez, je vous propose de vous faire votre propre histoire, mais avec l'andante du concerto pour violon en la mineur de Jean-Sébastien Bach.
Thank you.
C'était la fin de l'andante du concerto en la mineur pour violon de Jean-Sébastien Bach dans l'interprétation de Joshua Bell au violon et de l'ensemble Saint-Martin in the Fields sous la direction de John Constable. Christine, est-ce que tous les mouvements lents, quel que soit l'instrument, sont efficaces en musicothérapie ?
Mais en tout cas, c'est ce que je mets souvent en fin d'entretien. Vous avez bien remarqué que le tempo était très lent.
Oui.
Et j'ai vu que dès que vous l'avez entendu, vous avez dit « Ah, c'est beau !» Et oui, un mouvement très lent, très apaisant. Quoi. Oui, c'est... Pour moi, c'est très important de ramener le patient dans le service assez calme, qu'il aille bien.
Oui, c'est sûr. C'est un peu le but de la manœuvre.
Oui.
Alors, est-ce que vous choisissez vos musiques en fonction de vos patients ? Ou alors, est-ce que vous avez un médicament précis pour une infection précise ? Non,
je m'adapte à eux. Et c'est pour ça que je faisais beaucoup rire mes collègues il y a 20 ou 30 ans, parce que j'avais plein de sacs de CD.
Oui.
Ils m'appelaient Mary Poppins, ça c'était plutôt sympathique. Joséphine Ange Gardien, c'était un peu moins sympathique. Mais maintenant, j'ai beaucoup, beaucoup de morceaux dans la tête. Et,
oui,
donc voilà, je lui dis plutôt aux patients, choisissez-moi quelque chose que vous aimez et je vais tout doucement l'orienter vers des choses dont je pense qu'elles vont l'apaiser, et encore une fois, pas forcément en fonction de sa culture. Si sa grand-mère l'a traîné à l'opéra toute sa vie, je pense pas qu'il aimera trop l'opéra si c'était pas dans ses goûts.
Ouais.
Voilà.
Tout à l'heure, on parlait qu'il y avait la possibilité pour les patients de jouer de la musique, de chanter éventuellement, mais est-ce qu'il y a la possibilité de danser aussi ?
Ah ! Alors, moi, je danse comme une savate, donc c'est une grande difficulté pour moi. Mais me suis formée à la danse assise pour personnes âgées,
danse
en position assise.
D'accord.
Alors, il s'agit d'être assis et de faire des mouvements avec le reste du corps. Et ces danses assises, j'ai eu 12 jours de formation, j'en connais 60 normalement. Et ces danses assises sont très, très bien pour les patients parce qu'elles leur permettent à la fois d'être dans le lien avec les autres, elles permettent une bonne dynamique de groupe, elles permettent la mémorisation, la coordination et être dans le temps présent, ce qui est important, le mindfulness, c'est quelque chose de très important pour les patients. Ça marche très très bien sur les enfants autistes et danses assises, ça leur plaît beaucoup beaucoup.
Là, j'avoue que je découvre quelque
oui,
chose.
Hein. Faut...
Ça a l'air d'être un univers, parce que 12 jours pour se former à la danse assise...
C'était dur. Hein.
J'imagine. Ça vous arrive de faire jouer des instrumentistes en live ? De faire venir des gens ?
Oui.
Ou de jouer
alors,
vous-même ?
Jouer moi-même un petit peu, mais c'est toujours délicat, vous savez, de faire venir des professionnels. Il y a le problème du secret médical.
Ouais,
hein.
Oui.
C'est quelqu'un qui intervient et qui voit son meilleur copain parmi les patients, ça, c'est pas bien. Donc, on a vraiment arrêté tout ça, et pourtant... une de mes grandes joies, c'était d'amener une patiente qui rêvait d'aller à l'opéra. On l'a emmenée à l'opéra, ça c'est très très bien. Je verrais plus l'hôpital qui va vers l'écoute. Oui.
Et dans ce que vous faites écouter, il y a un privilège. Enfin, vous privilégiez plutôt les versions live ou ça n'a pas spécialement d'intérêt ?
Ah non.
Non.
Non, moi j'ai.
Il se passe la même chose
oui,
au
oui,
niveau
oui.
émotion
oui,
que
oui,
soit
oui.
en live ou en studio.
Oui, oui, oui. Peut-être. Peut-être des groupes de rock où on est content d'entendre des applaudissements furieux, plein d'énergie comme ça, mais les groupes modernes, oui, peut-être, mais en tout cas, les versions classiques, moi, je préfère les choses enregistrées où c'est pur, où c'est parfait, où on n'entend pas les pages se tourner, où les auditeurs en train de tousser, quoi.
Ouais. Bon. Quand vous faites écouter quelque chose à un patient, est-ce que vous savez à peu près ce qu'il va vous dire après ?
Jamais. Alors, dans ces cas-là, j'éclate de rire et je dis « Ah, musicothérapeute, ce n'est pas une science exacte. » Parce que un patient va vous dire « Cette musique, pour moi, est triste. » Et me file une angoisse pas possible. L'autre dira « Qu'est-ce qu'elle est gaie, votre musique ?» Donc, voilà. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'il va dire et pourquoi. Et dans quel état il est au moment où il le dit. Et en plus, je pense qu'il pourra dire une chose un jour et le lendemain, il dira peut-être autre chose.
D'accord. Eh bien, je vous propose d'écouter le début de ce concerto d'Aranjuez de Joaquim Rodrigo.
Thank you.
C'était le début de l'adagio du concerto d'Aranjuez de Joaquim Rodrigo dans l'interprétation de Thibaut Garcia à la guitare et de l'Orchestre National de Toulouse sous la direction de Ben Klasberg.
Tempo classique sur RCN, Dominique Breda.
Alors, on disait tout à l'heure que vos patients ressortent normalement apaisés.
Oui, normalement.
À la suite du... de vos séances. Et vous les recevez, on a dit tout à l'heure, une fois par semaine en général.
Oui, hein, oui, au moins.
Bon, et vous alors dans tout ça, vous continuez à pratiquer la musique?
Oui, j'étais contrebassiste au conservatoire et j'ai eu la chance de fréquenter quelques années l'harmonie de Nancy,
oui,
dirigée par Jean-Marc Illy à cette époque-là. C'était un vrai bonheur. Le reste du temps, non, je joue peu, j'écoute beaucoup, mais je continue à donner des cours à droite à gauche, y compris à ma petite fille, voilà.
Et alors, comment vous faites pour digérer tout ce que vous disent vos patients?
Alors, c'est pas facile. C'était bien quand j'avais trois quarts d'heure de route, parce que j'avais le temps d'oublier tout ça sur la route. Mmh. Maintenant, j'habite à 3 minutes de mon travail. C'est pas toujours facile d'entendre des gens qui souffrent tellement, des patients qui se sont suicidés, voilà, des gens qui rechutent. En psychiatrie, on rechute beaucoup. Je disais l'autre fois, on ne soigne pas, on apaise, on accompagne, c'est à peu près tout ce qu'on fait. Donc, j'essaye de faire plein de choses, d'écouter, d'aller beaucoup au concert. Je suis abonnée à l'opéra, je vais beaucoup à des concerts dans des différents festivals. Je suis allée plusieurs fois au festival de Vézelay, qui est un pur bonheur. Voilà, donc, j'essaye de me nourrir.
Voilà, c'est ça, vous écoutez les autres.
Voilà.
Très bien. Alors donc, à côté de ces 60% au CPN, vous faites de la formation au CNFPT.
Oui.
Parlez-nous un petit peu de tout
depuis
ça.
Depuis 2000, je suis formatrice au Centre National de Formation des Professions Territoriales. Donc essentiellement, en ce qui me concerne, pour les ATSEM, pour les animateurs...
ATSEM.
C'est les aides... Enfin, c'est les dames qui donnent un coup de main aux professeurs,
assistants, oui,
les assistantes, okay, dans les maternelles, qui font un travail fabuleux et très dur. Et les animateurs périscolaires, qui reçoivent les enfants en dehors des heures scolaires, mmh, voilà, qui aussi sont souvent des gens passionnés. Tout le personnel des crèches et aussi le personnel des médiathèques, car j'ai une formation qui s'appelle « Poser sa voix, se faire entendre sans s'épuiser ».
Ah, ça, c'est
alors,
bien,
je redonne
ça,
des tas de techniques vocales pour ne pas trop s'user à force de crier et surtout ne pas crier.
Oui,
voilà. Et aussi, j'ai beaucoup de choses autour de la relaxation, de la détente, de l'éveil musical du tout petit, des massages, parce que je me suis formée aussi au massage assis, voilà.
Oh, ben, vous faites beaucoup de choses assis,
oui,
la danse, le massage.
Oui, 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 moi, vous n'êtes pas le seul à me le dire. Non, on n'en concluait rien, ce serait un discours
tout. Absolument rien. Vous faites encore d'autres choses? Vous êtes tuteur pour
des gens,
alors, qui font des thèses?
Voilà, merci Dominique de me redire ça. Je suis à 5 ans et demi de la retraite. Mm-hmm. Donc maintenant, je suis dans la transmission. Donc, même si c'est très fatigant, j'accueille beaucoup de stagiaires. Et notamment une qui est en ce moment en thèse de musicothérapie. Donc,
thèse de musicothérapie?
Oui, oui, elle va être pas de 3 ans chercheur à la Sorbonne sur la musique active, sur les maladies mentales. J'ai eu récemment une jeune femme qui fait une formation d'art-thérapie à Poitiers. Là, une autre qui fait une formation de danse-thérapie à Paris. Et là, j'ai encadré il y a 10 ans, et là, c'était pour mon grand bonheur, et aussi, ça me donne un certain sérieux, cette thèse-là. J'ai encadré la thèse d'un docteur en médecine qui s'appelle « La musique au service du soin ».
Ouais.
Et en ce moment, je m'occupe de la thèse d'une pharmacienne.
Alors oui, racontez-nous un peu, parce que là, c'est pas
une
évident,
pharmacienne qui s'intéresse aux thérapies non médicamenteuses, c'est quand même génial. Donc, je n'arrête pas de la féliciter, je suis ravie. Elle me dit que ça peut être intéressant de donner beaucoup de pistes aux patients qui viennent dans les officines, et je trouve ça vraiment super. Donc, elle va faire son diplôme d'état de docteur en pharmacie. Le thème qu'elle a choisi, c'est la musique et la musicothérapie dans la prise en charge des pathologies psychiatriques. Alors, je trouve ça passionnant.
C'est tout un programme, hein, effectivement. Bon, écoutez, vous avez d'autres choses à rajouter
dans
ce que vous faites. On a fait pas mal le tour,
oui,
je crois.
Oui.
Hein. Bon. Bon, on va écouter un petit peu de musique avec l'andante du concerto pour clarinette de Mozart. C'était l'andante du concerto pour clarinette de Mozart dans l'interprétation de Raphaël Sévère avec l'orchestre de chambre de Paris dirigé par Lars Vogt. Christine Doridan, merci d'avoir passé cette heure avec nous. On avait vraiment découvert des tas de choses, assises, debout.
Merci Dominique de m'avoir invité. C'est toujours passionnant de parler de la musicothérapie.
Ah ben je vois ça. Puis moi, je découvre un univers parce que c'est vrai que... On ne va pas souvent dans les lieux où elle est pratiquée.
Et je ne vous le vous souhaite pas.
Ben
je
oui, vous le mais souhaite bon, pas. Voilà. Donc encore merci. Merci à Joris pour la technique et à mardi prochain.